Donc, on commence, on est dans notre étude des mystères du Nouveau Testament, les mystères, comme on a dit, qui sont des choses qu'on n'aurait jamais pu connaître si Dieu ne les avait pas révélées. Mais en Dieu, en les révélant, eh bien, ils nous deviennent accessibles. On peut les comprendre parce qu'il nous les a révélés. On avait vu qu'il y avait six mystères par rapport à la doctrine. Puis on a commencé à regarder le mystère de la foi la semaine passée. Et cette semaine, on va regarder le mystère de l'Évangile. Puis après ça, on va voir le mystère des Juifs et des Gentils dans un corps pour former un seul corps. Ensuite, il y a le mystère de l'épouse de Christ. Puis après ça, il va y avoir le mystère des sept étoiles et des sept chandeliers. Et ensuite, ça va être le mystère de la piété. Donc, le mystère de la piété. Puis après, il y a un, deux, trois, quatre, cinq mystères dispensationnels ou en rapport avec les dispensations. C'est le mystère du royaume des cieux, le mystère de l'aveuglement d'Israël, le mystère de l'enlèvement de l'Église, le mystère de sa volonté et le mystère de Dieu. Puis il y a un mystère qui est dévotionnel, c'est le mystère de Christ qui habite en nous. Puis ensuite, il y a deux mystères à la fin, c'est les deux mystères diaboliques, c'est le mystère de l'iniquité, puis le mystère de la grande Babylone. Donc c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, OK. On va lire notre passage dans Romains 16, 25. On va commencer avec Romains 16, 25, ensuite Éphésiens 6, 19. Donc, dans Romains, au chapitre 16, on va introduire notre mystère, le mystère de l'Évangile, c'est ce qu'on regarde ce soir. Donc, Romains 16, au verset 25. Je m'approche un petit peu. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Donc, c'est là que le mystère caché pendant des siècles, est le mystère de l'évangile, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. On va aller aussi dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6. OK, au verset Éphésiens 6. On va regarder le verset 19. Éphésiens 6 et le verset 19. OK, on lit ici, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc, c'est ça qu'on a nos, donc c'est là qu'on a nos mots mystère par rapport au mystère de l'Évangile. C'est qu'avant de commencer, on va passer un petit moment dans la prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ces choses que tu nous as révélées. On te remercie, notre Dieu, que tu nous fais connaître ces choses et ça nous parle de ta proximité, de la proximité de la relation qu'on a avec toi maintenant parce que tu nous fais connaître ce qui est dans ta pensée de toute éternité. On te remercie, Seigneur, parce que tu nous l'as révélé. Plusieurs ont voulu connaître dans le passé ces choses, mais ça ne leur est pas été donné. Mais à nous maintenant qui sommes parvenus à la fin des temps, tu nous as donné de connaître ces choses-là. Tu nous as révélé par tes apôtres et les saints prophètes et les apôtres de Christ. On te remercie pour ça, Seigneur, puis on veut l'apprécier et te louer, puis en connaissant ces choses, Seigneur, afin qu'on puisse vivre d'une façon qui te soit agréable, en attendant la bienheureuse espérance du retour de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, l'Évangile, c'est un sujet important. C'est ça qu'on a vu dans la dernière fois, dans le mystère de la foi, pas la dernière fois, mais la foi, oui, la dernière fois, c'était le mystère de la foi. Puis, la foi était basée sur trois colonnes, comme on avait vu. Puis, l'Évangile était une de ces colonnes-là. Dans 2 Corinthiens 11, 4, on avait lu, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, Paul faisait un reproche en disant qu'il ne discernait pas et il recevait des choses qui étaient fausses en rapport avec la personne du Seigneur Jésus-Christ, en rapport avec l'Esprit de Dieu qui dirige dans la parole de Dieu ou l'autorité des Écritures. et aussi un autre évangile. Donc, le mystère de l'évangile, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Dans toute éternité, Dieu avait en vue de cet évangile-là qu'il allait révéler. Pour nous maintenant, dans cet âge qu'on est, eh bien, il a révélé ces choses-là. Mais on voit que l'évangile, c'est quelque chose qui est puissant. Si on va dans Colossiens, au chapitre 1, et versets 5-6, Paul parle de cet évangile-là comme quelque chose de puissant, un peu comme un corps étranger qui a été placé dans le monde, puis qui fait son travail. Paul le dit comme ça ici, au verset 5 de Colossiens 1, il dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, donc il nous est connu maintenant. Puis Paul en parle au verset 6, il dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Donc Paul en parle ici comme quelque chose qui a été introduit dans le monde, puis qui fait son travail, qui continue d'avancer, puis les gens sont sauvés. Puis c'est vrai, quand on pense à l'Évangile, depuis qu'il a été introduit dans le monde, eh bien, il a continué à persévérer, malgré l'opposition, malgré beaucoup qui rejettent cet Évangile-là, ceux qui le reçoivent, cet Évangile-là a continué de travailler à travers les âges jusqu'à nous maintenant, puis encore aujourd'hui, Paul peut dire, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, non seulement des Juifs, mais aussi des Grecs ou des gentils. Puis cet Évangile-là, quand il est prêché, eh bien, il fait son œuvre. Il y a ceux qui reçoivent l'Évangile, eh bien, connaissent une transformation, connaissent le salut de Dieu, une joie immense d'avoir leurs péchés pardonnés. Mais on va aller maintenant dans 1 Pierre. Au chapitre 1. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, on voit encore cet évangile-là qui travaille, qui œuvre. Puis, vous savez, c'est un privilège qu'on a d'avoir un message aussi puissant, de pouvoir le partager. Puis, c'est pour ça que Paul, quand il disait qu'il n'y avait pas honte de l'évangile, c'est qu'il était heureux parce qu'il savait que cet évangile-là, quand il est prêché selon les termes que Dieu a donné, eh bien, il fait son œuvre et il rencontre des gens, des cœurs qui le reçoivent et ensuite sont sauvés. Donc, dans 1 Pierre, au verset 8 à 13, on va regarder ce passage-là. Donc, on voit que c'est quelque chose que les anges désirent plonger leur regard. Mais on va lire le verset 8 à 13 de 1 Pierre 1. Okay. Donc, il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, on voit ici dans les versets 8 et 9, l'évangile qu'on a reçu, c'est une cause qui nous fait aimer le Seigneur. Voyez-vous, dans les versets 8 et 9, il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, et vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Paul, il parlait de celui qui l'avait aimé et qui s'était livré lui-même pour lui. Puis Paul, dans son désir d'avoir connu cet évangile-là, cet amour-là, eh bien, lui, il voulait maintenant vivre pour le Seigneur Jésus. Puis c'est ça qui fait aussi, pour nous, c'est un sujet de grande joie. Puis c'est une cause qui nous donne d'aimer le Seigneur. Parce qu'auparavant, on ne peut pas dire qu'on l'aimait vraiment parce que On ne s'inquiétait pas, on ne se préoccupait pas de ce que lui voulait. Mais maintenant qu'on est sauvé, on veut vraiment lui plaire, on veut vraiment, parce que son amour nous a rejoints, puis lui nous a aimés le premier, puis ensuite de ça, nous, on l'aime, on répond à son amour. Mais aussi dans les versets 10 à 11, on voit que c'est l'intérêt des prophètes. Donc, c'est un sujet vraiment intéressant parce que les prophètes, dans verset 10, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Imaginez-vous, ces gens-là parlaient de la part de Dieu, puis ils parlaient de des choses qu'ils ne comprenaient pas. Donc, eux-mêmes, en ayant donné les paroles de Dieu, cherchaient dans ces paroles-là à connaître, à comprendre ce qui leur était, qui leur avait été révélé ou donné par inspiration afin qu'ils le transmettent. Ils étaient les dispensateurs. Voyez-vous, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, on voit que cet évangile-là comporte les souffrances de Christ et la gloire qui allait venir, parce que c'était vraiment une énigme dans l'Ancien Testament, parce qu'on parlait d'un Messie régnant dans la puissance, dans la gloire, mais aussi on parlait tantôt d'un Messie souffrant. Puis il se demandait comment ça se fait dans l'Ancien Testament, il se demandait comment ça se fait qu'on peut parler de quelqu'un qui allait être souffrant en même temps, qui allait être glorieux. Mais c'est sûr, eux n'avaient pas ce qu'on a maintenant, nous on a vu que le Messie est venu souffrant premièrement, puis ensuite il revient en gloire. Ça, c'est des choses qui nous sont révélées à nous dans le Nouveau Testament parce qu'on est entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, ils pensaient juste à une venue. Mais nous, on voit qu'il y avait deux venues. Il y avait la première venue et la seconde venue du Messie. Tellement que, parce que il parlait d'un Messie souffrant, Benoni, et aussi d'un Messie qui serait glorieux, Ben David. Donc, il parlait de Ben Joseph, ou le fils de Joseph souffrant, puis il parlait aussi de Ben David, David qui était un roi qui a régné. Mais il reste que Joseph a souffert, mais ensuite il a régné. Il était dans la gloire. Puis David, avant de régner, il a été aussi dans la souffrance. David a été rejeté, David a souffert. Il y a eu un temps de souffrance, ensuite il y a eu un temps de gloire à régner de la même façon que Joseph. Donc les deux nous parlent du Seigneur Jésus-Christ, sont des types du Seigneur Jésus-Christ qui devait souffrir. Puis eux se demandaient comment ça se fait qu'il doit souffrir et qu'il doit régner. Mais avant de régner sur ces sujets, il fallait qu'il souffre pour racheter ces sujets, justement, afin qu'ils aient la vie éternelle. Parce qu'on avait un problème, c'était le péché. Puis le péché faisait en sorte qu'on ne pouvait pas être dans la présence de Dieu. Et lui, il voulait vraiment nous racheter premièrement et ensuite de ça, nous emmener dans la gloire. Donc, c'est important que ces choses-là arrivent. Donc, les prophètes, eux, ils ont cherché ces choses-là, mais ils ne les ont pas connues. C'est pas pour eux qu'ils écrivaient ces choses-là, c'était pour nous. Puis maintenant, quand on regarde dans le Nouveau Testament, on peut aller dans les prophètes puis comprendre encore mieux ce que les prophètes ont écrit à cause de ce qui nous a été révélé étant entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un espace au moins de 2000 ans entre ces deux venues-là. Mais ce n'est pas juste les prophètes qui étaient intéressés à ces choses-là. Les anges aussi, on voit que les anges, dans le verset 12, il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs. Dispensateur, c'est celui qui donne, celui qui transmet. Les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est les saints apôtres et prophètes de Christ qui nous ont transmis ces choses-là. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Maintenant, on est dans un temps où le Saint-Esprit est venu. Le Seigneur Jésus avait dit, et vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Donc, il fallait que le Seigneur Jésus soit, qu'il ait souffert, qu'il soit mort, qu'il soit enseveli, qu'il ressuscite, et ensuite qu'il monte dans la gloire, qu'il retourne dans la gloire. Et là, il pouvait envoyer le Saint-Esprit. Donc, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, les anges désirent plonger leur regard. Puis ça aussi, on le voit dans un sens dans l'Ancien Testament, parce que sur l'Arche de l'Alliance, il y avait le couvercle de l'Arche qu'on appelle le propitiatoire. Mais sur ce couvercle-là, il y avait des chérubins qui avaient leurs ailes déployées et se touchaient, les ailes se touchaient, mais le regard des anges était vers le propitiatoire. Et c'est là que le sang était appliqué. Le sang était appliqué là par le souverain sacrificateur une fois par année. Donc les anges regardaient où le sang était appliqué, puis ça permettait à un homme qui pouvait s'approcher de Dieu sur la base d'un sacrifice. Puis ça nous parle aussi de notre salut. On peut maintenant, nous, à cause de l'aspersion du sang du Seigneur Jésus-Christ, donc on peut s'approcher de Dieu. Puis c'est ce que les anges voulaient. C'était quelque chose de regarder ça pour les anges. Donc c'est ça. Mais aussi, on voit que les prophètes de ces temps-là étaient intéressés, cherchaient à connaître. Si les gens cherchent à connaître, mais à combien de nous autres on devrait être intéressés par ces choses-là? C'est ce qu'il nous dit dans le verset 13 de 1 Pierre 1 au verset 13. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc nous, en tant que les récipiendaires de ces grâces-là, de cet évangile-là, eh bien c'est nous qu'on devrait avoir le plus grand intérêt. Quand il dit saigner les reins de votre entendement, ça veut dire de vraiment tout mettre en œuvre et de prendre toute l'intelligence qu'on a des choses qui nous sont révélées pour les connaître, puis les serrer dans nos cœurs comme un trésor précieux. C'est vraiment merveilleux quand on pense à cet évangile-là, parce que pour nous, cet évangile-là, c'est tellement merveilleux. Je pensais à ça dimanche en voyageant. Je me disais, vous savez, on méritait l'étang de feu. Puis c'est ce qu'on aurait été, on aurait été jeté dans l'étang de feu. Mais combien merveilleux maintenant de savoir que notre destination, ce n'est pas l'étang de feu, mais c'est la gloire éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça nous a été acquéri par le Seigneur Jésus, par ses souffrances sur la croix, par son ensevelissement, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et le fait qu'il est dans la gloire nous garantit que nous aussi, qui l'avons reçu par la foi, on va être aussi dans la gloire pour l'éternité. Mais vous savez, l'évangile, c'est compliqué dans un sens. C'est grand l'évangile parce que s'il dit de ceindre les reins de notre entendement, eh bien, c'est parce qu'il faut forcer pour pouvoir contenir, pour pouvoir comprendre ces choses-là. Mais l'évangile, c'est compliqué. Mais c'est aussi reçu en toute simplicité. Ça, c'est merveilleux, hein? C'est un grand sujet, l'Évangile, mais c'est reçu en toute simplicité par la foi. Quand on met notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, on reçoit cet Évangile-là. Puis c'est tellement simple parce que, vous savez, souvent, quand on prêche l'Évangile à des gens, ils vont nous dire, quand ils viennent à comprendre, ils vont dire, c'est donc bien simple. Puis c'est vrai que c'est simple. Parce que ben moi, je dis dans ce temps-là, je dis, ben je suis content que c'était simple parce que je ne l'aurais jamais eu, je ne l'aurais jamais reçu. Parce qu'un enfant peut recevoir. Vous savez, il y a des jeunes enfants, moi je connais des gens ils ont reçu l'Évangile à 3 ans. Puis maintenant, c'est des adultes qui ont vécu toute une vie pour prouver que c'était réel, qu'est-ce qu'ils ont reçu à 3 ans était réel. C'est certain qu'ils n'avaient pas tout compris, tout ce qui concerne l'Évangile. Parce que même nous autres, on n'a pas encore tout compris ce qui concerne l'Évangile. C'est encore le sujet de notre investigation. Mais on en comprend assez pour savoir que nos péchés ont été pardonnés, puis qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus qui a dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Vous savez, toutes ces choses-là, on les a reçues, on les croit, on le sait, mais on découvre, après qu'on a reçu l'Évangile, on en découvre de plus en plus. C'est un peu comme cet Évangile-là, on l'a reçu en toute simplicité par la foi, mais on l'a reçu dans toute sa complexité. Il est tout à nous, complètement. Il n'y a rien qui nous manque dans l'Évangile qu'on a reçu. Et on ne l'a pas reçu à moitié. C'est pas, on ne le reçoit pas de plus en plus, mais on le découvre de plus en plus. C'est un peu comme un cadeau, vous savez, qu'on reçoit, là. Bien, quand quelqu'un nous donne un cadeau qui est emballé, puis les gens, des fois, ils aiment ça, emballer, suremballer, afin que ce soit comme un peu une intrigue, parce qu'à mesure qu'on déballe le cadeau, mais il y a d'autres emballages, puis on finit par. Ça prend du temps avant d'en arriver au produit final du cadeau. Mais c'est un peu comme ça que nous, on a reçu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. On l'a reçu dans toute sa. Complètement. Mais on passe toute une vie à découvrir tous les bénéfices qui nous viennent à cause de cet évangile-là. Mais on le reçoit dans un instant. On passe de la mort à la vie. C'est comme on traverse une ligne. On passe du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Tantôt, on était mort dans nos péchés, puis dans un moment du temps, on est maintenant vivant avec Christ. Donc, on le reçoit dans un instant, mais on passe toute une vie à le découvrir. Puis ensuite de ça, dans l'éternité, jusque dans l'éternité, on va encore découvrir les bénéfices merveilleux de cet évangile-là. Mais l'évangile qu'on a reçu inclut notre salut, mais pas seulement. Vous savez, souvent, des gens pensent qu'on est sauvé de l'étang de feu pour l'éternité. Oui, c'est vrai, mais on le reçoit au moment de notre salut. Mais cet évangile-là inclut notre salut au passé, au présent et au futur. Au passé, c'est quand on l'a reçu par la foi, quand on a mis notre foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui a été accomplie une fois pour toutes pour nous, eh bien, on a été sauvés à ce moment-là de la punition du péché, c'est-à-dire l'éternité dans l'étang de feu. Ce jugement-là que méritaient nos crimes, eh bien, le Seigneur Jésus l'a reçu à notre place. Donc, nous, on n'aura jamais besoin de passer dans le jugement de Dieu. Nos œuvres vont être jugées au tribunal de Christ, mais pour la vie éternelle, nous, on a, comme il dit dans Romains 8 au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel bonheur qu'on a été sauvés dans le passé pour ceux qui sont sauvés. Maintenant, c'est parce que ça s'est passé dans le passé. On a été sauvés quand on a mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. On a été sauvés de la pénalité du péché. Mais dans le présent, maintenant, on continue d'être sauvés. C'est pour ça que quand on voit dans la parole de Dieu le salut, il faut distinguer de ces saluts-là parce que dans le présent, on est sauvés du pouvoir du péché dans nos vies. Donc, ça, c'est un salut progressif à mesure qu'on avance dans notre vie chrétienne, on est sauvé du pouvoir du péché sur nous. Donc, on est libéré du péché, on devient plus libre en avançant parce que bon, c'est sûr que si le Seigneur nous avait montré tous nos péchés, si le Saint-Esprit nous avait convaincus de tous nos péchés d'un coup, on aurait été écrasés, mais il nous les révèle un à un à mesure qu'on avance. Puis, on parlait de ça dernièrement, là. Au moment de notre salut, il semble que c'était facile. On aurait dit que le Seigneur nous montrait quelque chose, puis oups, on l'abandonnait par amour pour le Seigneur, parce que notre cœur était tellement heureux du salut, puis de l'amour du Seigneur Jésus, que maintenant, on avait la victoire facile. Mais il y avait beaucoup de choses aussi à changer au début de notre salut, là. Puis on aurait dit qu'on en parlait dimanche autour de la table au dîner. Puis la victoire venait rapidement. Mais on sait qu'à mesure qu'on avance, pour ceux de nous qui ça fait longtemps qu'on est sauvés, on a encore des choses à changer. On s'aperçoit encore qu'il y a des choses à changer. Puis on dirait, des fois, ça prend plus de temps à les changer. Mais l'Évangile nous sauve au présent. Elle nous sauve du pouvoir ou la puissance du péché dans nos vies, afin qu'on vive de plus en plus pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais merci Seigneur, parce que dans le futur aussi, notre salut est au futur. C'est qu'un jour, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, toujours par sa puissance, on va être sauvé de la présence du péché. Ça va être merveilleux. Parce que à l'enlèvement de l'Église, on a parlé un petit peu en début, avant de commencer l'étude, quand on va être enlevé, vous savez, il va falloir que ce salut-là soit complet. Parce que le moment d'après, on va voir le Seigneur Jésus tel qu'il est. On sait que Jean, l'apôtre Jean, qui était un bien-aimé du Seigneur, qui était sauvé, eh bien, quand il a eu sa vision sur l'île de Patmos, puis qu'il a vu le Seigneur Jésus, il est tombé à ses pieds comme mort. Mais nous, on ne tombera pas comme mort. On va pouvoir le contempler. Parce que dans un instant, dans un clin d'œil, à sa venue, on va être transformé complètement. Il n'y aura plus de péché en nous. Donc, on va être prêt pour être dans un environnement où il n'y a plus de péché. Puis, ça, c'est on va être sauvé à ce moment-là, dans le futur. On va être sauvé de la présence du péché pour l'éternité. Puis, merci Seigneur, jamais plus on va pécher. Vous savez, cette lutte-là qu'on livre aujourd'hui contre le péché, là, qu'on a toujours à combattre contre ce péché-là, par la puissance du Seigneur d'être délivré jour par jour, ben, en ce jour-là, on va être délivré complètement de la présence du péché. Puis on va pouvoir se présenter devant lui, puis contempler sa gloire, sa majesté, qui ne va pas nous écraser, mais on va pouvoir le contempler, puis s'en réjouir éternellement. Donc, c'est ça que l'évangile qu'on a reçu simplement, mais dans toute sa complexité, cet évangile-là inclut tout le processus du moment du salut jusqu'au temps qu'on soit dans la gloire. C'est ça que Paul pouvait dire. Je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc, le salut qu'on a reçu par la foi inclut le passé, le présent et le futur. Tout est inclus. C'est que le Seigneur s'est engagé, des gens, des fois, qui pensent au salut comme je me suis engagé avec Christ. Vous savez, quand nous autres, on s'engage, je parlais avec quelqu'un une fois. Puis il disait ça, il disait qu'il s'avait engagé déjà envers Christ pour être sauvé. Puis à un moment donné, il avait perdu son salut. Il s'était éloigné de Dieu. Puis là, il dit, mais là, il dit, je me suis réengagé. J'ai dit, pauvre toi, si tu tombes encore, tu vas encore le perdre. Là, je voulais lui montrer vraiment que le salut qu'on reçoit par la foi en Jésus-Christ, c'est pas comme ça. C'est pas nous autres qui s'engagent envers lui parce que ça, moi, j'aurais terriblement peur si c'était dépendant de mon engagement envers le Seigneur. Mais le salut qu'on a, c'est l'engagement du Seigneur envers nous. Alors ça me réconforte, ça me donne l'assurance, parce que c'est pas moi, c'est lui qui va garder mon dépôt jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à son retour. Puis lui va compléter. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc c'est tout en rapport avec le Seigneur, c'est tout en rapport avec son œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Et il nous en donne d'être bénéficiaires quand on met notre foi en ce salut-là qu'il a accompli pour nous. Vous savez, cet évangile-là qui comprend à partir du moment que de notre salut par la foi jusqu'à la gloire, c'est le Seigneur ça va être complet, ça va tout s'accomplir. Eh bien, l'homme et Satan, quand on pense aux religions dans le monde, là, il n'y a jamais une religion qui a pu concevoir quelque chose d'aussi merveilleux. Vous savez, ça dépasse l'intelligence, l'imagination de l'homme. Le salut que Dieu nous a donné, même ce qu'on va avoir, il dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, il n'est jamais monté au cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées d'avance, afin que nous, les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Donc, il n'y a pas une religion qui offre un salut si merveilleux, complet, comme ça, comme le Seigneur, parce que il y a seulement l'œuvre de Christ sur la croix qui peut pourvoir un tel salut. Et vous savez, l'Évangile, c'est sûr que vu qu'elle nous a été révélée comme un mystère qui nous a été révélé, mais cet Évangile-là n'a pas cette origine-là en nous. Ce n'est pas nous qui avons pensé à ça. C'est Dieu, son origine est dans la pensée de Dieu. On a dit ça auparavant, là, que c'est pas, c'est Dieu qui a pensé dans l'éternité à nous pourvoir d'un évangile tel et pour que cet évangile-là nous soit pourvu, il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui pouvait venir accomplir une œuvre parfaite pour nous. Mais cet évangile-là, il a son origine en Dieu, même avant que le péché entre dans le monde. Donc, dans 1 Pierre 1, 18 à 20, il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, c'était avant même que le monde soit, Dieu avait pourvu, il y avait dans sa pensée un agneau sans défaut, sans tache, le Seigneur Jésus-Christ, et que son sang versé vraiment nous rachèterait de notre vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères. Mais ce salut-là a été cet agneau-là nous a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Puis on pense aux paroles de Jean le Baptiste, hein, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ et qu'il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Quelle révélation! On sait que qu'est-ce qu'il voulait dire là, c'est que les autres agneaux dans l'Ancien Testament qui avaient été leur sang avait été versé en multitude, mais il représentait seulement un agneau. C'était celui qui avait été prédestiné avant la fondation du monde. Il n'y avait aucun autre agneau qui pouvait être sans défaut, sans tache, comme le Seigneur Jésus, qui allait venir pour accomplir par son sacrifice le salut merveilleux que nous possédons maintenant par la foi en Jésus-Christ. Donc, mais on voit que l'Évangile, c'est sûr qu'il n'était pas révélé complètement dans l'Ancien Testament, dans un sens, mais il y avait quand même une révélation de l'Évangile assez pour que des gens de l'Ancien Testament soient sauvés. Vous savez, même on dit dans l'Ancien Testament, les autres étaient sauvés par la loi. Ils n'étaient jamais sauvés par la loi. Tous ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament ont été sauvés de la même façon que nous, par le sang précieux de Christ qui était à venir. Ils n'étaient pas encore immolés, mais ils mettaient leur foi dans celui qui viendrait. Vous savez que l'Évangile, la première fois que l'Évangile a été prêché dans le monde, ben c'est quand le péché est entré dans le monde. Puis c'est dans le jugement que Dieu lui-même a prononcé contre Satan, parce que Satan avait entraîné l'homme dans le péché. Il avait amené l'homme à se désobéir à Dieu, puis de suivre lui dans sa rébellion. Et c'est ça, comme ça que le péché est entré dans le monde, comme il nous est dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Mais le moment où l'homme a péché, Dieu a donné l'Évangile. Et il l'a donné dans son jugement du serpent quand il dit dans Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous savez, ça, c'est l'Évangile dans son embryon, la première révélation de l'Évangile à l'homme. Il y a beaucoup en peu de mots, il y a beaucoup de. Ça inclut tout ce qui devait être révélé par la suite. Vous savez, ça parle de la naissance virginale, parce que quand on parle de le lignage de la femme ou la postérité de la femme, dans certaines traductions, quand on parle de la postérité de la femme, ce n'est pas une façon de parler, dans un sens, on parle toujours de la postérité de l'homme. Mais ici, pour être la postérité de la femme, il fallait qu'il soit né d'une vierge, sans un homme. C'est le Saint-Esprit qui est survenu sur Marie pour concevoir dans son sein le Seigneur Jésus-Christ, qui lui allait être un deuxième homme, qui n'était pas pécheur. Il fallait qu'il soit impeccable, sans péché, qui n'hérite pas de la nature de péché qui nous a été transmise par Adam. Et la preuve, c'est qu'on nous aussi, on a péché. Donc, la naissance virginale. Mais aussi, on voit dans cela, quand il dit que c'était la postérité de la femme, et on voit le mystère, le conflit entre le mystère de la piété, qu'on verra plus tard, et le mystère de l'iniquité. Et vous, cet évangile-là rencontre dans le monde, depuis ce temps-là, rencontre vraiment une opposition de la part du mal. Satan qui empêche les gens de venir au Seigneur Jésus-Christ. Il a réussi à convaincre les hommes que Dieu est un ogre, que Dieu va détruire leur vie s'ils se tournent vers lui. Mais si ce n'était pas de ça, si les gens réalisaient, vous savez, quand on accepte le Seigneur, on est tellement heureux qu'on est maintenant sauvé, puis on dit. Pourquoi que moi, il y avait mon beau-frère qui s'appelle Roland Terrien, puis il disait qu'au début, il disait, t'es Roland, trop lent à venir au Seigneur. Quand on voit comment c'est merveilleux l'Évangile, on dit, comment ça se fait que j'ai attendu si longtemps? Parce que quand on vient au Seigneur, on s'aperçoit il nous dit, goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Puis dans l'Évangile, on goûte à la bonté de Dieu, à sa grâce infinie qui vient nous sauver. Donc, on a le conflit entre le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Puis, comme on a vu dans Colossiens 1, on voit cet évangile-là qui a été lâché dans le monde, puis qui fait son œuvre, que des gens qui entendent le salut par l'évangile se tournent vers le Seigneur, mettent leur foi, Puis, il est tout aussi puissant maintenant qu'il l'était au début. Et tous ceux qui, par la foi, se mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour leur salut, sont sauvés. Ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, on voit mais en dépit du conflit entre le mal et le bien qui empêche, qui veut, il nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de ceux qui périssent afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Mais aussi là-dedans, on voit que, parce qu'il dit, c'est inimitié entre toi et la femme, donc c'est ça qui nous parle de le conflit qu'il y a entre le mal et l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais on voit là-dedans aussi les souffrances du Seigneur Jésus. Les souffrances, comme il nous disait dans 1 Pierre, les souffrances et la gloire qui suivrait. Les souffrances de Christ et la gloire qui suivrait. On voit les souffrances dans le fait que il nous dit que en écrasant la tête du serpent, il serait blessé au talon. Donc, étant blessé au talon, on voit qu'il fallait que le Seigneur Jésus-Christ il souffre. Puis même, il disait à ses disciples avaient de la difficulté à comprendre ça. Puis il leur avait dit qu'il fallait qu'il meure, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des scribes, et qu'il meure, puis qu'il ressuscite le troisième jour. Puis les disciples, Pierre avait dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Puis même après sa résurrection, le Seigneur Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, a rencontré deux disciples qui étaient tout tristes à cause du fait qu'ils avaient vu le Seigneur Jésus souffrir sur la croix, mourir et être mis au tombeau. Puis ils disaient que même s'il y a des femmes qui disent qu'ils l'ont vu ressusciter, il y avait de la misère à croire. Puis le Seigneur leur a dit, homme lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Puis là, il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc, il fallait qu'ils comprennent ça. Puis là, ils l'ont compris à ce moment-là. Puis ils l'ont reconnu pendant qu'ils rompaient le pain. Puis je me dis, moi, quand ils ont rompu le pain, ils ont probablement vu les marques des clous dans ses mains. Puis là, ils ont dit, ah, c'est lui qui avait souffert, puis maintenant il était ressuscité. C'est ça qui est merveilleux. Donc, mais on voyait les souffrances du Sauveur, mais aussi la victoire complète et finale, parce qu'en écrasant la tête du serpent, c'est que Satan a été vaincu pour l'éternité. Satan va être un jour jeté dans l'étang ardent de feu pour ne plus jamais influencer le monde, ne plus jamais tenter. Il va être dans l'étang de feu, un endroit qui a été créé pour Satan et ses anges. Tristement, ceux qui rejettent le salut de l'Évangile, eh bien, eux aussi vont avoir cette portion-là avec Satan dans l'étang de feu. Mais pour nous, c'est la victoire complète et finale du Seigneur Jésus. Vous savez, quand la tête est écrasée, c'est complet. Le talon blessé, c'est des souffrances. Mais Satan a pensé pouvoir anéantir le Seigneur Jésus, puis les chefs religieux, eux aussi, ont voulu se débarrasser de lui. Mais il est mort. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, puis il vit éternellement, plus jamais. Ils vont pouvoir mettre la main sur lui pour le mettre sur la croix. Mais Paul, vous savez, c'est Paul, il aimait proclamer cet évangile-là. Paul, il avait été récipiendaire de cet évangile-là, il l'avait reçu lui-même, et des grandes choses lui ont été révélées. On sait que Paul a été enlevé jusqu'au troisième ciel dans la présence de Dieu, puis il a vu des choses ineffables qui. Mais Paul, sa vie a été complètement transformée. Puis il est parti avec un désir ardent de proclamer cet évangile-là. Puis il voulait non seulement le prêcher aux non-sauvés, mais il voulait encore le prêcher et l'expliquer aux sauvés. Comme il dit dans Romains 1,15, il leur dit aux Romains qui, eux, étaient des chrétiens à ce moment-là, il leur parlait des frères en Christ. Mais il leur dit, j'ai dans Romains 1,15 aussi, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Donc, l'épître aux Romains, le thème de l'épître aux Romains, c'est l'évangile. Puis on voit dans, si on va, on va aller dans, quand on va dans Romains 1, on voit que c'est vraiment le thème de toute l'épître aux Romains, c'est l'évangile. Parce que Paul, il nous dit dans le verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, dans le verset 1, on voit l'origine de l'évangile. C'est l'évangile de Dieu. Paul avait un vif désir. Il voulait aller leur expliquer, leur montrer, leur faire comprendre toute la grandeur de cet évangile-là qui nous a été donné. Mais au verset 2, on voit qu'il nous a été révélé par les Écritures. Parce que Paul dit ici, attendez un petit peu, évangile au verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, Paul reconnaît que dans ce qu'ils avaient reçu comme révélation par rapport à l'Évangile, eh bien, c'était en parfait accord avec ce que les prophètes avaient écrit. On a vu que les prophètes, quand ils l'ont écrit, ils ne comprenaient pas nécessairement tout ce qu'ils comprenaient l'Évangile, mais Paul, il démontre que ce qu'il a reçu comme révélation, puis les saints apôtres, les prophètes de Christ ont reçu, c'était complètement en accord avec ce qui était révélé dans les Écritures auparavant dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas un conflit, c'est juste que ce n'était pas révélé comme ça l'est maintenant à nous. Donc, révélé par les Écritures, mais le verset 3 nous dit, Paul, dans son entrée en matière, il nous dit, cet évangile-là, il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Donc, l'objet principal de cet évangile-là, ben, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'objet principal de cet évangile-là. C'est le seul qui pouvait vraiment nous donner cet évangile-là. C'est seulement lui qui pouvait accomplir l'œuvre. Et parce qu'on ne pouvait pas nous mourir les uns pour les autres parce qu'on était tous des pécheurs, mais lui seul était celui qui était le deuxième homme, qui était impeccable, sans péché, et qui lui pouvait donner sa vie pour des pécheurs. Mais quand on continue, vous savez, ce qui a créé le besoin d'un évangile, ben, c'est le péché. C'est le péché qui est entré dans le monde. C'est à cause du besoin qu'il y a eu un évangile. C'est à cause de notre besoin pour que nous, on n'ait pas à rencontrer le jugement de Dieu. Ça, c'est dans la grâce de Dieu que ça a eu son origine. C'est que Dieu ne voulait pas nous juger. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente puis qu'il ait la vie. Donc là, dans Romains 1, verset 18, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Donc dans l'Épître aux Romains, Paul démontre ici que c'est à cause de l'injustice de l'homme, de l'impiété puis de l'injustice des hommes, la colère de Dieu. Dieu peut pas balayer ça en dessous du tapis. Vraiment, Dieu est en colère contre le péché et sa sainteté demande un jugement et sa justice demande un jugement. Mais l'Évangile est la façon que Dieu peut nous épargner de ce jugement-là. Donc, dans le chapitre 1, il nous montre le besoin universel de l'Évangile à cause de l'impiété, à cause de l'injustice, à cause du péché qui est entré dans le monde. Les chapitres 2 et 3 de Romains nous démontre la culpabilité universelle. Vous savez, tout dans Romains 3, on voit qu'il nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu demande dans les versets, Paul nous demande dans les chapitres 2 et 3, là, la culpabilité universelle. Il parle de ceux qui n'ont pas de retenue. Il y a des gens qui se livrent complètement au péché, puis souvent, nous, les gens qu'on se livre pas autant dans le péché que certains, on les condamne. Mais ceux qui n'ont pas de retenue, mais même ceux qui veulent être moraux, ceux qui veulent vivre une vie de moralité, qui ne veulent pas se lancer complètement dans le péché, ben, on juge ceux qui sont dans le péché. Donc, puis Paul dit, hein, toi qui juges les autres, tu fais la même chose. Puis non seulement tu les fais, mais tu prends plaisir parce qu'il y a quelque chose en nous qui prend plaisir. La preuve, regardez les films qu'on voit aujourd'hui, là, puis la violence, puis le péché, là, ben, plus qu'il y a de violence, plus qu'il y a de péché, plus que ces films-là sont attirants. Parce que c'est comme on voit un certain plaisir à regarder ces choses-là, parce que même si on ne les fait pas nous autres, on veut quand même, il y a une jouissance dans ce péché-là. Puis ça, c'est Paul lui montre ici que ceux qui n'ont pas de retenue sont condamnables devant Dieu, sont coupables devant Dieu. Mais même les gens qui vivent une vie morale, eh bien, ils jugent les autres, puis ils font les mêmes choses. Même s'ils ne font pas en action dans leur pensée, et on voit que le péché est là. Donc, ils sont coupables aussi. Mais il nous parle ensuite de ça, de ceux qui ont la loi. Donc, il nous parle des Juifs, la circoncision. Ceux qui avaient reçu la loi de Dieu, ben, ils ne la gardaient pas. Et parce que on voit qu'éventuellement, dans le chapitre 7, il va dire, Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Comme la loi étant comme un miroir qui vient refléter notre état de péché. Puis, c'est ça qu'il démontre dans les chapitres 2 et 3, là. Il démontre que ceux qui ont la loi sont plus redevables parce qu'eux, ils ont la loi. Puis, ayant la loi, ils ont brisé la loi. Mais il en vient en conclusion dans le chapitre 3, Romains 3, au verset 23, il dit, Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans certaines versions, il dit, Tous, juifs et gentils, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on est tous devant Dieu coupables. De péché devant Dieu. On mérite le jugement de Dieu. Mais là, il va parler maintenant dans le chapitre 4, il nous parle de la justification. Et la justification, il faut bien comprendre, la justification, c'est pas nécessairement de rendre juste, mais c'est de déclarer juste. C'est de déclarer juste. C'est comme le juge qui, à la fin, il fait sa déclaration, puis il déclare celui qui était inculpé comme étant innocent. Il le laisse, il déclare juste. C'est ça. Dans le chapitre 4, il nous parle de la justification ou d'être déclaré juste sur la base de la foi seulement. Et pour le faire, il nous parle d'Abraham, qui a été justifié par la foi. Abraham, qui était le père de la nation juive, lui-même, qui a été justifié ou déclaré juste avant même la loi, parce que la loi est venue 430 ans plus tard. Donc, Abraham, sans la loi, avait été déjà déclaré juste par Dieu. Sur quelle base? Parce que Dieu avait fait des promesses, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Voyez-vous comment c'est jamais en conflit. C'est toujours tous ceux qui ont été justifiés, qui sont justifiés devant Dieu, déclarés justes, c'est toujours sur la base, pas de leur justice propre, mais sur la base du fait qu'ils ont cru à ce que Dieu a promis. Puis ensuite de ça, dans le chapitre 4, il nous parle de David, qui écrit Heureux celui, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point son péché. Donc, David reconnaissait qu'il était un pécheur, mais qu'il était béni, qu'il était heureux du fait que l'Éternel ne lui imputait pas son péché. Donc, s'il ne lui imputait pas, David avait cru au fait que Dieu ne lui imputait pas son péché, parce qu'on sait quand il a péché avec Bathsheba, David lui-même avait prononcé son jugement sans savoir qu'il était question de lui. Mais quand Nathan lui a conté l'histoire de l'homme qui avait pris la brebis du pauvre, puis David avait dit, cet homme-là mérite la mort. C'est vrai, c'est un juge. Puis là, Nathan s'est tourné vers David, puis il a dit, c'est toi, David, cet homme-là. Donc, David méritait la mort, mais Dieu ne lui a pas donné la mort. Dieu lui a donné, sur la base de la foi. David croyait à la miséricorde de Dieu. La preuve, c'est que quand Dieu lui avait fait choisir entre trois fléaux. Il a dit que je tombe entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes, parce que les hommes n'ont pas de miséricorde, mais Dieu avait de la miséricorde. Donc, dans le chapitre 4, la justification ou être déclaré juste, c'est sur la base de la foi seulement. Dans le chapitre 5, il nous parle les conséquences de la justification par la foi. Donc, on est en paix avec Dieu, on a une espérance. On a le salut, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 5. On voit qu'on a cette espérance-là. On est en paix avec Dieu, on est réconcilié avec lui. On a l'espérance de la vie éternelle. On a le salut de notre âme qui nous a été donné par la justification que Dieu nous a accordée par la foi. Mais ça cause un problème dans la pensée des gens, hein, parce que les gens, ils nous disent quand on leur parle du salut par la foi comme ça, ils disent, Ah oui, c'est ça, vous pouvez faire n'importe quoi, puis là, vous êtes sauvés, vous allez aller au ciel. Mais Paul, il règle ce problème-là dans le chapitre 6 à 8. Il leur dit, au début du chapitre 6, il dit, Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, au contraire. Puis là, il commence dans le chapitre 6, il nous parle que la justification, chapitre 6 à 8, il nous montre que la justification par la foi est le seul système qui produit une vraie sanctification qui est profonde dans l'homme. C'est parce que c'est sur la base d'être justifié par la foi. Parce que ceux qui cherchent la sanctification dans une crainte d'être perdus, eh bien, on voit qu'ils ont toujours des échappatoires, hein, parce que On voit que les pharisiens, il y avait toutes sortes de façons de détourner la loi ou d'excuser leurs péchés parce qu'ils n'étaient pas capables. C'était pas, le Seigneur Jésus les appelait des sépulcres blanchis. Donc, c'est comme si on avait mis une couche de peinture, mais en dedans, il était plein d'ossements d'homme, puis il était plein de péchés. Donc, c'est le seul système, la justification sur la base de la foi, c'est le seul système qui produit une vraie sanctification parce qu'il ne s'appuie pas sur la chair. Puis c'est ça qu'il dit, hein, la loi était faible parce que la chair la rendait faible, parce qu'elle agissait au niveau de la chair. Mais maintenant, la justification par la foi, le salut, c'est l'Esprit qui vient en nous. Dans chapitre 6, il nous montre que la victoire sur le péché, c'est dans notre identification avec Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, si on est mort à ce qu'on était au péché auparavant, puis maintenant, on a été enseveli, puis là, on est ressuscité pour une nouvelle vie, une vie de résurrection. La même puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, vient dans nos vies pour nous faire vivre d'une vie de résurrection dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre 7, il nous montre comment est-ce que la loi agissait, puis la loi, il en finit par dire que misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc la loi, elle ne pouvait pas faire ce que l'Esprit de vie fait en nous. Mais maintenant, ayant reconnu qui me délivrera de ce corps de mort, eh bien maintenant, il présente dans le chapitre 8 la puissance de l'Esprit de vie qui vient. C'est un autre, c'est comme une loi différente que la loi du péché. La loi du péché me gardait dans la servitude, mais maintenant, c'est une loi de vie, de résurrection de vie dans l'Esprit de Dieu qui nous donne la victoire sur, puis l'assurance aussi de la gloire. Donc, tout le chapitre 8 nous parle de la puissance de vie qui vient à l'œuvre dans nos vies quand on a reçu le salut de Dieu par la foi. Dans le chapitre 9 et 11 de l'Épître aux Romains, on voit que maintenant, c'est la façon d'agir de Dieu, non, dans le salut envers Israël et les païens est vraiment en accord avec le principe de l'Évangile. Parce que c'est un peu comme quand on arrive au chapitre 6 de Romains, c'est un peu comme si quelqu'un interjectait ou arrivait avec des problèmes quant à la façon d'expliquer que Paul a d'expliquer l'Évangile, mais Paul démontre que non, ce n'est pas une raison de péché. Il l'a démontré dans chapitre 6 à 8. Mais maintenant, l'autre objection, c'est donc qu'est-ce qui arrive avec Israël? Si Israël, eux, il n'y avait pas cet évangile-là, qu'est-ce qui arrive avec les promesses que Dieu a faites à Israël? Ben, Paul démontre dans ça que dans les chapitres 9 à 11, que ça rentre nullement en conflit avec les promesses qui ont été faites à Israël. Et elles vont s'accomplir. Puis de la même façon, à Israël, ils vont réaliser un jour que eux aussi, ils ont été désobéissants. Mais ils vont voir que nous qui étions désobéissants auparavant, les gentils ou les païens, puis qu'on a eu la miséricorde de Dieu pour être justifiés sur la base de la foi, bien, eux, ils vont venir un jour à comprendre leur désobéissance quand ils vont voir celui qu'ils ont percé. Ils vont réaliser qu'ils ont désobéi aussi. Ils étaient aussi coupables que nous, mais parce que nous, il nous a été fait miséricorde, ils vont voir qu'eux aussi vont pouvoir bénéficier de la miséricorde de Dieu. Puis, pour ça que dans le chapitre 9 de Romains, on voit le passé d'Israël. Dans le chapitre 10, on voit le présent d'Israël. Puis dans le chapitre 11, on voit le futur d'Israël. Parce que ceux qui disent qu'il n'y a plus de futur pour Israël, ils ne comprennent pas les Écritures, puis ils n'ont pas lu ces passages-là. Quand Dieu a fait des promesses, Dieu ne se repent pas des promesses qu'il a faites à Abraham. Puis à cause de son peuple, il a fait des promesses qui nous concernent. Il a fait des promesses aussi qui concernent le peuple juif selon la chair. Et on sait que dans la tribulation, Dieu va en revenir. Après que l'Église va avoir été enlevée, Dieu en revient à son peuple Israël et il va l'utiliser comme il voulait pour ensuite rejoindre les nations. Ça a toujours été le plan de Dieu. Dieu voulait, à travers les Juifs, rejoindre les nations. Eh bien, dans la tribulation, c'est ce qu'il va faire et aussi dans le millénium. Puis, dans les chapitres 12 à 16, on voit maintenant, c'est comment on vit l'Évangile dans la pratique. Comment ça se transmet dans notre vie de tous les jours, l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les chapitres 12 à 16 de Romains. Puis, il y a encore des choses à dire là-dessus, mais je vais m'arrêter là pour cette semaine. On continuera la semaine prochaine, puis après ça, on prendra le prochain mystère. Mais je vais m'arrêter là pour donner l'opportunité à ceux qui voudraient, qui auraient des questions ou qui, c'est-à-dire que je vous donne la possibilité de reprendre votre micro et je vous laisse un temps pour pouvoir s'il y a des questions ou s'il y a des commentaires à faire. À vous la parole.
J'aurais une question générale ou une réflexion encore. Bon, pardonnez-moi mes nombreuses questions.
Non, 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 c'est bon.
Ouais. Alors, si Anaël n'avait pas péché, donc l'Évangile n'aurait pas été nécessaire. Est-ce que plus tard, mettons 200, 300 ans après la naissance d'Anaël, le péché aurait pu entrer encore dans le monde?
La naissance de qui? D'Adam, tu veux dire?
Après, mettons, 200, 300 ans, là,
Ouais.
si Adam n'avait pas péché, donc
Abraham?
nous serions encore aujourd'hui en Éden.
OK, Adam, tu veux dire?
Pardon?
Tu veux dire Adam?
Ouais, si Adam n'avait pas péché,
OK.
Adam et Ève,
Ouais, OK, Adam et Ève, c'est ça que tu avais dit, OK.
oui, alors nous serions dans la période d'innocence.
Ouais. Ouais, c'est ça, mais Dieu, connaissant toutes choses d'avance, savait qu'il avait laissé le choix à Adam et Ève, il les avait créés à son image, à sa ressemblance, comme il avait avec la possibilité de choisir, comme Satan aussi. Satan, il y a eu la chute de Satan, puis ensuite de ça, il y a eu la chute d'Adam. Mais on sait qu'au début de l'humanité, c'est tout dans le plan de Dieu, donc c'est pas lui qui est l'auteur du mal. Mais il connaissait tout ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'avant que ça arrive, il avait déjà prévu de pourvoir un moyen de salut.
C'est bien, merci. Ça règle mon problème.
C'est sûr que c'est des choses profondes, ça.
Ouais.
C'est dans la pensée de Dieu.
Ouais.
Moi, j'aime la nuance que la conversion au Seigneur, c'est pas un engagement de notre part, parce que si c'était un engagement de notre part, comme tu as dit, le salut dépendrait en partie de nous-mêmes aussi, mais c'est Dieu qui fait tout. On accepte l'évangile de Dieu par la foi, et en acceptant l'évangile de Dieu par la foi, ben Dieu nous génère, nous dégénère, pas dégénère, mais nous
Nous régénère.
Régénère et nous donne une nouvelle vie, une vie éternelle, une vie qu'on ne peut pas perdre. Ouais. C'est attendu qu'on peut être désobéissant dans notre cheminement, mais comme ça a été dit, on a aussi la puissance, l'Évangile, c'est une puissance présentement aussi pour lutter contre le péché.
Il dit qu'on n'a pas encore lutté jusqu'au sang, on n'a pas encore combattu jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais c'est ça, il y a un combat, mais notre salut éternel ne dépend pas de ce combat-là, mais de l'œuvre de Christ.
J'ai
Gérard?
aimé, quand tu as mentionné Genèse 3,15.
Ouais.
C'est certain, quand on est venu à l'Évangile, on a compris ça. C'était toute une révélation, en tout cas pour moi, là. Parce que je me souviens, dans les maisons, il y avait cette statue dans le coin de la maison, hein. Alors, là, j'ai compris l'Évangile. C'est vraiment spécial, mais qu'est-ce que tu as dit ce soir? C'est que Dieu avait déjà prévu avant qu'Adam pêche ou suite après, hein?
Il avait prévu d'avance, c'est parce que l'agneau était prédestiné avant la fondation du monde, donc
Ouais.
avant que c'est
Ouais.
ça, que Dieu avait déjà prévu. Mais
OK.
la statue que l'Église lui donnait, c'était Marie qui écrasait la tête du serpent.
Ouais.
Mais c'est pas parce que ils faisaient entre il disait entre ta postérité et sa postérité. Donc, mais c'était pas celle-ci t'écrasera la tête. C'était pas Marie celle-ci. Puis moi,
Voilà.
c'est rare qu'on ait une traduction qui donne un mot masculin pour la postérité. Moi, c'est son lignage. Puis celui-ci t'écrasera la tête. Fait que j'aime ça, cette traduction-là que j'ai, c'est la nouvelle édition de Genève, mais même dans la nouvelle édition de Genève, je vois souvent que c'est celle-ci qui est la postérité. Puis j'avais un argument avec mon père quand il disait ça, que c'était la femme qui écrasait la tête du serpent. Mais j'ai dit non, non, c'est pas la femme, c'est la postérité de la femme. Puis, ben, ça dit celle-ci, mais j'ai dit si le mot serait masculin, ça serait celui-ci. Puis dans ma Bible, ça dit lignage, qui est un nom masculin. Puis il dit celui-ci t'écrasera la tête. Donc, c'est pas Marie, c'est vraiment le Seigneur Jésus qui écrasera la tête du serpent. Je pense que David, tu avais quelque chose?
Oui, lorsqu'on lit que les anges désirent plonger leur regard, est-ce que les anges sont limités au point de vue connaissance comparativement à nous face à l'Évangile aujourd'hui?
Ben, c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas la connaissance complète comme Dieu, là. Puis s'ils veulent comprendre ces choses-là, ils voient là-dedans parce que la sagesse infiniment variée de Dieu est démontrée aux dominations. Même tu sais, la puissance du mal, les anges, les bons anges aussi, ils voient là-dedans la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment Dieu a réussi? C'est un chef-d'œuvre, l'Évangile. C'est vraiment un chef-d'œuvre de Dieu dans son omniscience. Puis dans son omnipotence de pourvoir un salut qui serait efficace pour sauver des gens qui sont en rébellion contre lui. Puis comme Paul pouvait dire, hein, il dit qu'il était le premier des pécheurs. Puis c'était quand même, si lui pouvait être sauvé, n'importe qui pouvait être sauvé. Donc on pense à la puissance de cet évangile-là, là, qui démontre, puis les anges désirent plonger leur regard. Puis déjà, dans l'Ancien Testament, quand les chérubins étaient sur le couvercle du propitiatoire, ils avaient les yeux tournés vers le couvercle. Et là, ils voyaient le sang appliqué. Puis ça, c'est le salut sur la base d'un agneau qui a été immolé pour nous. Le sang a été versé. Puis maintenant, on est déclaré juste par Dieu à cause de cet agneau-là qui nous a lavé de nos péchés.
Est-ce
Amen.
qu'on pourrait dire que les anges ne connaissent pas l'amour de Dieu comme nous le connaissons?
Non, je ne crois pas qu'ils connaissent
Non.
l'amour de Dieu comme nous, parce que nous, on a connu l'amour de Dieu, parce qu'il s'est donné lui-même pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. Puis c'est sûr qu'ils peuvent le voir à travers nous, qu'il nous a tant aimés, car Dieu a tant aimé le monde. Mais nous, en étant les bénéficiaires, c'est pour ça qu'on dit, nous l'aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Donc, on est vraiment bénéficiaire de cet amour-là, puis on peut le comprendre, on peut en jouir, c'est une expérience qu'on a de l'amour de Dieu.
Merci.
Éphésiens 3, 9, Éphésiens 3, versets 9 et 10, qui dit: Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est un peu un rapport avec les dominations, les autorités dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la
La sagesse.
sagesse infiniment variée de Dieu.
C'est ça. Donc, il y a une révélation pour eux aussi là-dedans.
Oui. C'est eux autres. Par l'Église, ils connaissent ça.
C'est ça,
Pas d'Église du Seigneur, ils ne peuvent pas connaître.
ouais. C'est ça parce qu'il n'y a pas de salut pour les anges qui ont été déchus. Les anges qui ont été déchus vont terminer dans l'étang de feu avec Satan, mais il n'y a pas de salut de pourvu pour eux autres, mais pour nous, le salut est pourvu pour nous.
Redonner le verset, Daniel?
Éphésiens 3, versets 9, 10 et 11.
Merci.
Peut-être on va terminer par un mot de prière. Si on voulait qu'on continue à jaser, on pourra jaser, mais ceux qui doivent partir vont devoir partir, on va pouvoir partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour des choses si grandes et si merveilleuses. Seigneur, tu nous ouvres ton cœur pour nous révéler tes pensées profondes. Puis, Seigneur, on est tellement heureux parce que oui, on veut ceindre les reins de notre entendement. Seigneur, on veut comprendre, on veut connaître ces choses-là parce qu'on en est bénéficiaire. Seigneur, on peut vraiment connaître ton amour parce que tu nous as donné ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur, merci pour ton évangile et donne-nous, Seigneur, d'avancer, de progresser dans l'espérance qui nous attend d'être avec toi pour l'éternité dans le ciel. On te remercie pour tout ça, notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.